Ahmadi who says
si nous disons salam alaykoum, qui est un moyen très courant pour saluer, nous risquons 3 ans de prison. Nous ne pouvons pas dire que nos mosquées sont des mosquées. Nous ne pouvons pas faire l'appel à la prière.
C'est une vie d'interdit pour cette minorité religieuse dont le nom ne vous parle pas forcément. Ce sont les Ahmadis. Et nous allons à leur rencontre au Pakistan. C'est dans ce pays qu'ils sont le plus nombreux, environ 600 000 selon les chiffres officiels. Tout en se revendiquant de l'islam, la foi des Ahmadis repose sur le fait que Mahomet n'est pas le dernier prophète, ce qui en fait une communauté persécutée dans ce pays gangréné par les courants sunnites les plus fondamentalistes. Depuis 1974, le Pakistan a même rendu légales les discriminations contre cette communauté jugée hérétique. Islamabad ne les considère même pas comme des musulmans. Un seul exemple, l'État leur interdit de posséder un Coran chez eux.
La conséquence, c'est que les mollahs peuvent dire aux gens « Allez tuer des Ahmadis ». Je vous assure que dans un mois, vous serez remis en liberté.
Ces dernières années, l'intolérance religieuse monte au Pakistan. Contre les chiites, contre les chrétiens. Le cas d'Asia Bibi suscite l'émotion en Occident. Cette mère de famille, chrétienne, a échappé de très peu à la peine de mort pour avoir bu de l'eau dans un puits réservé aux musulmanes de son village.
Cette femme doit être pendue publiquement parce qu'elle a commis un blasphème envers notre prophète. La décision de la libérer est contraire au Coran. Ces juges ne sont pas compétents.
Les violences contre les Ahmadis sont commises toujours dans le silence, malgré presque 300 assassinats ciblés ces 30 dernières années et seulement 2 condamnations. Pour vivre dans un semblant de normalité, beaucoup d'Ahmadis se regroupent dans une même ville, leur refuge en quelque sorte, qui s'appelle Rabwa, à près de 5 heures de route d'Islamabad. Et c'est là que Géraldine Allo et Clémence Bonfils nous conduisent pour rencontrer les damnés du Pakistan.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Assalamu alaikum. Akoji, Ahmednagar kahi rasta hai na? Ahmednagar kahi rasta hai na? Kitna door hai? 4 km.
Nous sommes à 30 minutes de Rabwa, la ville où se réfugient les Ahmadis, persécutés dans divers endroits du Pakistan. La ville est d'ailleurs peuplée à 95% d'Ahmadis. Normalement, les journalistes étrangers n'ont pas le droit d'y aller. Alors pour venir d'Islamabad, nous avons attendu qu'il fasse nuit. Nous nous sommes assis à l'arrière d'un véhicule, le visage dissimulé sous un voile. Et à chaque point de contrôle de la police, il fallait baisser la tête. Au volant, notre fixeur, traducteur, Mohamed.
Welcome, madam. Please come.
Jabran, vous êtes étudiant à Lahore et vous vivez ici à Rabwa. En 2011, votre père, qui s'était converti à la religion Ahmadi, a été assassiné. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ?
Vous savez, les Ahmadis sont une minorité au Pakistan. Avec mon père et d'autres membres de ma famille, nous nous sommes convertis à la religion Ahmadi en 2010. Le 1er octobre 2011, mon père était en train de faire cours dans son lycée quand un homme est venu pour le tuer. Il a tiré une balle dans le cou et une autre dans le ventre. Mon père est mort dès la première balle, mais le meurtrier a tiré encore 3 fois, donc il a été tué.
Il a été tué dans la classe, devant ses élèves ?
Il a été tué devant des élèves innocents. 2 à 3 élèves étaient présents.
Pourquoi votre père a été tué ?
Parce qu'il n'était plus sunnite. Il s'était converti à la religion Ahmadi. Au Pakistan, les Ahmadis sont une minorité qui n'a aucun droit. Se convertir à la religion Ahmadi est un crime dans le pays.
Votre père avait été menacé avant son assassinat ?
Oui, on l'avait menacé parce qu'il s'était converti. Une partie de ma famille est impliquée dans la mort de mon père. Avant son assassinat, des membres de ma famille nous avaient ordonné de quitter la communauté Ahmadi. Et après la mort de mon père, quelqu'un nous a informé que mon oncle avait donné 85 000 roupies au meurtrier pour qu'il tue mon père.
C'est votre propre oncle qui a commandité l'assassinat de votre père.
Oui, c'est le grand frère de mon père qui a donné 85 000 roupies au tueur.
Donc, 9 ans après l'assassinat de votre père, le meurtrier, le commanditaire, qui est votre oncle, n'ont toujours pas été arrêtés.
Non, ils n'ont pas été arrêtés. Personne au Pakistan n'a envie d'enquêter sur les meurtres d'Ahmadi, ni la police, ni la justice. En plus, mon oncle est un leader religieux ici. Donc personne ne veut l'arrêter.
Comment vous vivez ça ?
Je ne ressens pas de colère, mais beaucoup de tristesse. Parce que j'ai perdu mon père. Et aussi ma maison, nos champs, mes amis et ma ville.
Pourquoi vous êtes réfugié à Rabwa ?
Rabwa est la ville des Ahmadis. Les Ahmadis sont protégés ici. Ils peuvent aller à l'école, vivre leur vie, avoir des droits. C'est pour ça que je suis venu ici.
Nous sommes dans le quartier de Rabwa qui accueille les Ahmadis qui ont été victimes récemment de persécutions, de violences ailleurs au Pakistan. C'est vraiment le quartier des derniers arrivés. Les immeubles sont de taille modeste, en briques. Toutes les fenêtres et toutes les portes sont fermées. Et nous avons rendez-vous avec Mushtaq, c'est un prénom d'emprunt. Il est arrivé ici il y a 9 mois. Geraldine, your spouse, your wife. Nice to meet you. Mushtaq, ce qui s'est passé pour vous, c'est qu'un jour vous faisiez des travaux sur votre gouttière et en ouvrant la gouttière, vous avez vu qu'il y avait des extraits de journaux où il y avait écrit le nom du prophète Mahomet. Et des passants sont arrivés et vous ont accusé d'avoir mis ça et d'avoir insulté le prophète. Vous avez été victime de violence. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Là où j'habitais, dans le district de Bahawalpur, j'avais une pharmacie. J'ai appelé mon associé pour qu'il vienne m'aider. Je lui ai demandé d'appeler la police. Car il y avait une foule qui se rassemblait devant chez moi, qui voulait me tuer et brûler ma maison. Quand mon associé est arrivé devant chez moi, il a vu une foule de 300 personnes qui hurlaient qu'il fallait me tuer. Moi, j'étais à l'intérieur et mon associé me disait au téléphone « Ta vie est en danger ». Il m'a dit « Appelle la police avant que la foule grossisse encore, on doit t'exfiltrer ». La police est arrivée 15 minutes plus tard et a dit à la foule de se disperser. Mais la foule ne voulait pas partir et des personnes ont dit aux policiers « Laissez-le nous, laissez-nous faire ce que l'on doit faire ». Les policiers ont dit « Non, il nous a appelés, donc on l'emmène avec nous ».
Dans votre cas, la police a réagi rapidement.
Oui, ils ont réagi très rapidement. Ils m'ont emmené au poste de police de Bahawalpur. Ils m'ont demandé ce qu'il s'était passé. Je leur ai dit que je n'y étais pour rien, que ce n'était pas moi qui avais placé ces papiers dans ma gouttière. Si j'avais placé ces papiers dans ma gouttière, jamais je n'aurais entrepris des travaux devant mes voisins. Après avoir fait ma déposition écrite, les policiers m'ont dit que j'étais innocent et ont classé l'affaire. Je leur ai dit que j'avais peur pour ma famille. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils allaient les emmener dans un endroit sûr, dans la ville de Multan.
J'imagine que vous avez eu très très peur.
Oui, j'étais terrifié. Parce que quelques années auparavant, dans mon village, deux personnes ont été brûlées vivantes par une foule déchaînée. Eux aussi étaient accusés de blasphème. L'un des deux hommes avait des problèmes mentaux, il s'amusait à brûler je ne sais quel papier, il n'avait aucune conscience de ce qu'il faisait. Il a été torturé et brûlé vivant. Quelque temps après, il y a eu un autre cas similaire, j'ai eu peur de subir le même sort.
On vous sent très ému, vous avez les larmes aux yeux parce que ça a été très traumatisant comme expérience. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez en sécurité ici ?
À Rabwa, je me sens en sécurité. Mais je ne peux pas aller ailleurs, ni à Lahore, ni à Faisalabad, car je risque de rencontrer des personnes qui me reconnaissent. Une seule fois, je suis allé à Lahore pour assister à un mariage. Des hommes de mon village m'ont reconnu et m'ont regardé avec beaucoup d'hostilité. Donc je sors très peu d'ici.
Thank you very much.
Merci beaucoup.
My English is very poor.
Mon anglais est très mauvais. Mais je vous remercie de vous intéresser à notre communauté.
En partant, Mouchtak nous montre une photo de lui, entouré de son père et de son frère aîné. Cette photo a été prise en 2009, lors du mariage d'un membre de sa famille. À l'issue de la cérémonie, alors qu'il rentrait chez lui, son frère a été abattu. Il était de religion Ahmadi, comme Mouchtak. Il était médecin, donc bien connu dans les villages alentours. 10 ans après le meurtre, le coupable n'a toujours pas été arrêté.
Mon nom est Kamar Suleiman Ahmad. Je suis l'un des porte-paroles de la communauté Ahmadi. Je vais vous expliquer quelque chose au sujet de nos croyances pour que vous compreniez pourquoi nous sommes considérés comme des infidèles au Pakistan. Le fondateur de notre communauté, Mirza Ghulam Ahmad, prétendait être le messie de la fin des temps. Il prétendait être le divin Messie. Nous, nous croyons en lui. Il a été envoyé sur terre par le prophète Mahomet.
Les Ahmadis sont considérés comme non-musulmans depuis 1974. Pourquoi ?
En fait, la raison de notre exclusion est d'ordre politique et non religieux. En 1974, le Pakistan traversait une grave crise économique. Il s'était séparé du Bangladesh 3 ans auparavant et était sous pression. Le Premier ministre, Ali Bhutto, a demandé de l'aide aux pays du Moyen-Orient. Il s'est rendu en Arabie Saoudite où le roi Faisal lui a dit « Je vais vous aider financièrement ». Mais nous avons un problème. Nous considérons les Ahmadis comme non-musulmans. Or, ils viennent ici faire le pèlerinage. Donc, prenez des mesures pour faire en sorte qu'ils ne soient plus musulmans.
Donc, c'est sous la pression de l'Arabie Saoudite que le Pakistan a décidé de déclarer les Ahmadis non-musulmans.
Oui. Et depuis, des nouvelles lois sont entrées en vigueur contre les Ahmadis. C'est une forme de persécution légale. Les lois du gouvernement sont contre nous. Sous la présidence du général Zia, il y a eu une dérive autoritaire. Il a imposé sa vision de l'islam, radicale, dure, très stricte. Il a pris une ordonnance stipulant que non seulement nous n'étions pas musulmans, mais qu'en plus nous n'avions pas le droit de nous déclarer comme musulmans. Si je dis que je suis musulman, je serai puni de 3 ans de prison.
Donc ça c'est le général Zia, et en quelle année c'était ?
En 1984. Ensuite, il y a eu d'autres mesures prises par le général Zia pour exclure les Ahmadis de l'islam, mais aussi de la vie politique du Pakistan. Si nous disons « Salam alaikum », ce qui est un moyen très courant pour saluer, nous risquons 3 ans de prison. Nous ne pouvons pas dire que nos mosquées sont des mosquées. Nous ne pouvons pas faire l'appel à la prière.
En quoi votre situation a empiré ces dernières années ?
Notre société est composée globalement de gens civilisés. Mais les mollahs, dans chaque village, dans chaque mosquée, dans chaque haut-parleur, ils diffusent la haine contre toutes les minorités, les Ahmadis, mais aussi les chiites. C'est comme ça que les choses se passent.
Donc là, vous nous montrez une vidéo d'un bâtiment en feu. Qu'est-ce que c'est exactement ?
C'était une usine de production de contreplaqué sur la route principale entre Lahore et Islamabad. Un jour, les mollahs ont accusé les propriétaires et les ouvriers qui travaillaient là d'avoir brûlé des pages du Coran dans la chaudière de l'usine. Les mollahs ont utilisé leur haut-parleur pour appeler la foule à se rassembler. Plus de 1000 personnes ont attaqué l'usine. Tous les ouvriers ont dû évacuer l'usine. Et maintenant, ce n'est plus qu'un amas de cendres. La foule a tout brûlé.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alors justement, nous avons retrouvé l'un des ouvriers qui travaillait dans cette usine incendiée. On l'appellera Ikram, il a 63 ans. C'est lui en particulier que la foule a accusé ce jour-là d'avoir brûlé des pages du Coran. Il a été emprisonné pendant plusieurs mois et il est donc venu se réfugier ici à Rabwa.
Bis. Le 20 novembre 2015, dans l'après-midi, la police a fait irruption dans l'usine de contreplaqué à Jhelum, où je travaillais. Ils m'ont accusé d'avoir brûlé des pages du Coran. Je leur ai dit que je n'avais rien fait de tel, qu'aucun incident de ce genre n'avait eu lieu ici. Les policiers ne m'ont pas cru et ont commencé à me frapper en me disant que je mentais. Il était alors près de 16h15. La police m'a emmené au commissariat avec mes deux fils.
En fait, vous étiez en train de brûler du bois et on vous a accusé de brûler un Coran.
Oui.
Mais les policiers ne voulaient pas me croire. Ils disaient, vous brûlez du bois, mais aussi le livre sacré.
Comme preuve de ce qu'ils avançaient, ils m'ont montré des pages du Coran qui étaient brûlées sur les bords, mais pas au centre.
Mais la cheminée de notre usine monte à une température de 1000 degrés. Donc je leur ai dit, comment est-ce possible qu'un papier ne brûle pas entièrement dans 1000 degrés, que le centre de la page soit intact ? À 18h30, les policiers m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer en prison, qu'une immense foule manifestait devant l'usine et qu'elle menaçait de s'en prendre à moi. En prison, j'ai été placé à l'isolement. Je ne pouvais voir ni parler à personne. Je me parlais à moi-même pour passer le temps. Cela reste un moment terrible dans ma vie.
Est-ce qu'ensuite vous avez été condamné par la justice ?
J'ai attendu un an avant que mon procès commence. C'était en 2016. Le juge m'a condamné pour blasphème à 25 ans de prison.
Votre avocat a fait appel du jugement et quel a été le résultat ?
Le juge qui a repris mon dossier en appel a conclu qu'il y avait beaucoup de contradictions dans mon affaire. J'ai été acquitté.
Après cette affaire, après avoir été acquitté en deuxième instance, vous avez décidé de venir vous installer ici à Rabwa.
Oui, parce que je ne savais pas où aller. Quand une personne sort de prison après avoir été accusée de blasphème, c'est très difficile pour elle de survivre dans la société. Elle est souvent tuée à sa sortie de prison. La communauté Ahmadi de Rabwa m'a contacté et m'a proposé de venir m'installer ici, à Rabwa. C'est ce que j'ai fait le 1er septembre 2017.
Donc vous êtes condamné à rester ici?
Oui, c'est le seul endroit où je suis en sécurité. Je ne peux aller nulle part ailleurs. Je vis ici avec ma femme et mes enfants. Je me sens en sécurité ici car je ne rencontre quasiment personne. Je me rends au bureau car la communauté Ahmadi m'a trouvé un emploi et ensuite je rentre chez moi. Je ne me mélange pas.
Interception sur France Inter.
C'était la fin de la prière du vendredi à Lahore quand s'est produit le massacre. Plus de 80 personnes ont été tuées dans ces attentats qui visaient les lieux de culte des Ahmadi, une minorité religieuse au Pakistan.
La ville de Rabwa est occupée à 95% par des Ahmadis. Ils y vivent en vase clos, dans une sécurité encore et toujours fragile. Tout autour, il y a des villages sunnites qui leur sont hostiles. Nous retrouvons Géraldine Allot devant la mosquée de la ville. C'est le jour de grande prière. Elle est accompagnée d'Amir, un jeune Ahmadi qui sert de guide à notre équipe.
It's a mosque in Rabwa. And it's Friday prayer.
C'est la grande prière du vendredi.
And you see the Ahmadi volunteers are here for security.
Donc Amir là nous a expliqué que pour des raisons de sécurité, les mosquées sont étroitement surveillées par des volontaires Ahmadi qui filtrent les entrées.
Because there is a threat of attacks, maybe suicide, maybe firing, so we protect ourselves.
Parce qu'évidemment tout le monde craint ici qu'il y ait un attentat comme il y a eu à Lahore en 2010, 90 Ahmadis sont morts dans la mosquée à ce moment-là. Et puis depuis, il y a régulièrement des attentats à suicide ou des attentats à la bombe dans les mosquées Ahmadis. Alors les fidèles viennent prier, comme ici aujourd'hui, mais avec énormément de précautions. Les Ahmadis pratiquent un islam ouvert, dans le sens où les femmes, lors de la prière du vendredi, peuvent venir assister à la prière en même temps que les hommes. Elles peuvent s'asseoir à côté des hommes.
Assalamu alaikum. Yeah. My name is Khalid.
Mon nom est Khalid.
I live in Rabwa.
Je vis à Rabwa.
And, I had the
et j'ai eu le plaisir de visiter la France et d'y vivre pendant un an.
Vous étiez à Toulon.
Yeah, j'étais là. Yeah.
Parce que vous étiez dans la marine pakistanaise, c'est ça, et vous avez passé un an
c'est ça,
en
oui.
France.
Oui. Yeah.
Vous êtes chargé de documenter les persécutions et les discriminations dont sont victimes les Ahmadis. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un tableau de ces persécutions?
Les persécutions contre les Ahmadis sont vastes dans ce pays. J'ai ici avec moi...
Là, vous avez un tableau de toutes les persécutions, assassinats. Qu'est-ce que c'est exactement?
C'est la liste des Ahmadis morts à cause de leur foi. Il y a leur nom, le lieu de leur assassinat, la date.
Combien d'Ahmadis ont été tués ces dernières années?
262. Ils ont été tués à cause de leur foi.
Over and above, there are hundreds of other cases in which assassination attacks.
Il y a aussi des centaines de tentatives d'assassinat qui ont fait des blessés très graves.
Quel était le profil de ces personnes et où est-ce que elles vivaient?
Partout dans le pays, de Karachi à Peshawar. Il n'y a pas de profil type. La plupart étaient des Ahmadis renommés, des propriétaires de bureaux, des avocats, des enseignants, mais même des Ahmadis moins connus ont été tués. Et la seule raison, c'est qu'ils étaient Ahmadis.
Est-ce que ce sont des assassinats qui ont eu lieu en public?
Presque tous ces assassinats ont eu lieu en public.
Les assassins se sont enfuis, certains ont été identifiés, la police s'est rendue sur place, mais dans seulement 5% des cas, l'affaire a été jugée. La conséquence, c'est que les mollahs peuvent dire aux gens « Allez tuer des Ahmadis ». Je vous assure que dans un mois, vous serez remis en liberté.
Pourquoi, selon vous ?
Parce que la police et les autorités savent que les Ahmadis ne sont pas les enfants chéris du pays. Et les politiciens ne les poussent pas non plus à poursuivre les meurtriers d'Ahmadis.
Mis à part ces assassinats ciblés, il y a d'autres formes de persécution.
Dans tous les aspects de la vie, les Ahmadis rencontrent de grandes difficultés à leur travail, dans les affaires, à l'école, dans les médias, en matière de propriété. Mon propre beau-frère, il était capitaine dans la marine. Il a construit une maison dans son village natal. Il vivait dans une grande ville. Quelqu'un a occupé sa maison et lui a dit « Je vais t'accuser de blasphème et tu iras en prison pour le reste de ta vie. » Mon beau-frère a dû renoncer à sa maison.
Vous êtes Atika ?
Oui.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 22 ans.
Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Vous étiez étudiante, mais vous n'avez pas pu continuer à faire des études.
J'ai été admise à l'Institut national de biologie de Faisalabad. C'est un institut de recherche. J'ai été admise là-bas parce que j'ai un bon dossier et des bonnes notes. Mais un mois après mon admission, ils m'ont appelée à la maison et m'ont demandé si j'étais Ahmadi. J'ai répondu oui. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas poursuivre ma formation, que je ne pouvais pas étudier chez eux. J'étais vraiment déprimée. Ils ne m'ont pas donné de raison, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas autorisés à me donner de raison.
Quand ils vous ont posé la question « Est-ce que vous êtes Ahmadi ?», pourquoi vous leur avez répondu « Oui » ?
Je ne voulais pas mentir. On ne nous a pas appris à mentir. On n'est pas censé dire à tout le monde qu'on est Ahmadi, mais si quelqu'un nous le demande, alors on doit dire la vérité. Je ne me sens pas bien quand je mens.
Donc depuis que vous avez été refusée, c'était au mois d'octobre, qu'est-ce que vous faites de vos journées ?
J'ai commencé à regarder sur Internet les cursus à l'étranger, ceux qui offrent encore des admissions. Mais ici, au Pakistan, c'est trop tard, car les formations commencent en septembre. En attendant, je donne des cours à la maison, parce que j'aime ça.
Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?
J'aimerais faire de la recherche scientifique pendant toute ma vie. Je m'intéresse aux molécules. J'adore suivre la vie des molécules, c'est ce qui me donne de l'énergie. C'est vraiment ce que je veux faire.
On arrive à l'hôpital de Rabwa, le Tahir Heart Institute. C'est un hôpital ultra-moderne, très réputé pour son service de cardiologie. L'immense majorité du personnel ici est Ahmadi.
On passe sous un détecteur de métaux.
Salam alaikum.
Je suis le professeur Nouri, l'administrateur du Tahir Heart Institute. C'est un hôpital à but non lucratif pour la région et pour le pays tout entier. 95% de nos patients sont non Ahmadis. Ce sont nos frères musulmans, nos frères chrétiens, ou bien nos frères et sœurs hindous de la province du Sindh. Nous avons trois catégories de patients ici, ceux qui ne peuvent pas débourser le moindre centime, eux ils ne paieront rien. Il y a ceux qui peuvent payer 50 ou 25% de leurs soins. Pour cela, on leur fera un rabais. Et puis il y a ensuite un petit pourcentage de patients qui paieront la totalité des soins. Mais nos prix sont au moins 40 à 50% moins chers que les autres hôpitaux de Lahore, Islamabad ou Karachi.
Ça vous arrive d'accueillir ici des patients qui vous sont à la base hostiles, qui sont hostiles aux Ahmadis ?
This particular area where we work is quite a far distant away from
la ville où nous travaillons se situe loin des métropoles du Punjab. Quelqu'un qui est victime d'une attaque cardiaque au milieu de la nuit n'aura pas d'autre choix finalement que de venir ici et nous prendrons soin de lui. Non seulement on le soignera, mais il y a de grandes chances pour qu'il ne paye rien. Récemment, il y avait un jour férié, une procession religieuse est partie d'un village près de Rabwa en direction du centre-ville. Il y avait le Mola Saheb, il se tenait là à faire la morale, à dire du mal de notre communauté. Et à cause de l'émotion, il a eu une attaque. Il s'est écroulé, il a été conduit d'urgence dans notre hôpital. Nous avons pris soin de lui, nous l'avons soigné, nous ne lui avons même pas fait payer un centime. Et il a quitté l'hôpital dans une humeur excellente. Un collègue m'a alors dit à l'oreille, ce mot-là particulièrement hostile n'est pas prêt de redire du mal de nous.
On va essayer de parler à un des patients qui n'est pas Ahmadi. Vous êtes patient et vous venez de Peshawar à l'autre bout du pays. Pourquoi vous êtes venu jusqu'ici pour vous faire soigner ?
Non, je ne vais pas à l'hôpital à Peshawar car je trouve que les médecins ne sont pas compétents. Le docteur le plus compétent est le professeur Nouri qui me suit ici. À l'hôpital de Peshawar, j'ai payé 400 000 roupies pour qu'il me pose deux stents pour garder mes artères ouvertes. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Alors j'ai contacté le professeur Nouri ici qui m'a très bien soigné.
Cet hôpital est tenu par les Ahmadis qui sont discriminés, voire persécutés ailleurs au Pakistan. Et ça ne le dérange pas ?
Non, ça ne me dérange pas. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Que nous soyons Ahmadis, chiites, sunnites. J'ai vu beaucoup d'amour chez le professeur Nouri.
Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces persécutions dont sont victimes les Ahmadis ? Les mosquées qui sont brûlées, les Ahmadis qui sont expropriés.
Ce sont des êtres humains. Ils ne devraient pas être traités comme ça. Vous savez, le professeur Nouri m'a installé un pacemaker et je n'ai rien eu à payer.
Sous la pression des groupes extrémistes, la Haute Cour d'Islamabad a rendu l'an passé un jugement très discriminatoire envers les Ahmadis. D'après ce jugement, que vous pouvez consulter sur la page internet de notre émission, les Ahmadis ne devraient pas porter de prénoms musulmans. Ils ne devraient pas non plus, mais là la nuance est plus ténue, porter les tenues de Monsieur Tout-le-Monde en quelque sorte. Pour les hommes, c'est le kamis, cette tunique longue que portent traditionnellement les musulmans et les chrétiens du Pakistan. Mais les Ahmadis, eux, ne devraient pas en avoir le droit. Sans que cela figure noir sur blanc dans ce jugement, les Ahmadis redoutent bien de devoir porter un signe distinctif.
Mon nom est Mirza Sultan Aman. Je suis pédiatre à l'hôpital de Rabwa. Je suis aussi passionné d'histoire. J'ai écrit 5 livres sur l'histoire de la communauté Ahmadi, dont le dernier, qui ne va pas tarder à sortir, s'intéresse à la décision du juge Siddiqui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette décision de la haute cour d'Islamabad qui impose aux Ahmadis de se différencier dans l'espace public?
Ce que le juge a écrit dans son jugement, c'est que les autres minorités religieuses peuvent se distinguer des musulmans par leurs habits ou leur nom. Ce qui en soi est faux, car de nombreux chrétiens au Pakistan ont des noms musulmans. Les chrétiens et les hindous ne s'habillent pas de manière différente, mais qu'importe. Il dit aussi dans son jugement qu'il est impossible de distinguer les Ahmadis par leur nom ou leur façon de s'habiller. Ce jugement est juridiquement faible, mais il est vicieux. Il explique que les Ahmadis doivent porter des prénoms différents et des vêtements différents, sinon on ne peut pas les distinguer des musulmans. Je vous donne mon exemple. Mon nom de famille est Ahmad depuis 6 ou 7 générations, depuis plus de 150 ans. Dans ce jugement, le juge dit spécifiquement que le nom Ahmad ne doit pas être porté par un Ahmadi, car Ahmad est un nom musulman. Donc, d'après ce juge, mon nom de famille n'est pas acceptable au regard de la loi et de la Constitution. Le souhait de ce juge est très clair, qu'au premier coup d'œil, on puisse distinguer un Ahmadi d'un non-Ahmadi. Ce que l'histoire nous a appris, c'est que de telles dispositions sont toujours prises en vue d'un génocide. Avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des marques sur les maisons des Juifs. Si je marche dans la rue, si j'écris mon nom, pourquoi devriez-vous savoir ma religion? Ce n'est pas votre affaire.
Est-ce que ce jugement qui impose aux Ahmadis d'avoir un suffixe ou un préfixe différent, de s'habiller différemment, est-ce que ce jugement est appliqué?
Il y a eu quelques incidents avec des officiers de police qui ont voulu l'appliquer. Mais le jugement a été suspendu. Cependant, il est encore valide. Le juge a été renvoyé pour d'autres raisons, mais son verdict est toujours valide.
Donc ce n'est pas appliqué, mais vous avez peur que ça le soit.
Oui, il y a bien d'autres discriminations qui ont été adoptées.
Nous sommes devant le grand cimetière de Rabwa, où sont enterrés les membres éminents de la communauté. Cimetière magnifique, au pied de falaises aux couleurs rouille. Et dans ce cimetière, il y a toutes sortes de plantes, des palmiers, des roses, des fleurs de toutes les couleurs.
Come to Abdul.
This is the Dr. Abdul Salam, the Nobel laureate.
Ce que nous explique Amir, c'est que donc, nous sommes devant la tombe du professeur Mohamed Abdus Salam.
Basically, written in 1979, became the first Muslim Nobel laureate for his work in physics.
Qui a obtenu le prix Nobel en 1979 pour ses travaux sur la physique. C'est le premier prix Nobel musulman.
But as you see, the word Muslim has been raised from the gravestone of the grave.
Et sur sa tombe, le mot musulman a été effacé par les autorités, car les Ahmadis ne sont plus considérés au Pakistan comme des musulmans.
Interception sur France Inter.
Ousmane Arman, vous avez 37 ans, vous avez vécu de nombreuses années au Royaume-Uni. Vous êtes parti là-bas quand vous aviez 2 ans, vous y avez passé 20 ans et vous avez décidé en 2004 de revenir vous installer au Pakistan. Pourquoi ?
En 2004, j'avais fini mes études à l'université. J'ai obtenu un diplôme d'histoire. Chez les Ahmadis, il est possible de choisir de dévouer sa vie à la communauté. Alors j'ai choisi de consacrer ma vie aux Ahmadis. C'était en avril 2004.
Comment vous expliquez cette haine irrationnelle dont sont victimes les Ahmadis ?
Ce niveau de haine ne peut venir que dans lavage de cerveau. Parce que l'être humain n'est pas programmé pour haïr autant. C'est ce qui se passe au Pakistan. L'État organise la diffamation et la marginalisation des Ahmadis. Ça part du sommet. Nos lois et notre constitution vont dans ce sens. Nous sommes considérés comme des êtres à part. Et si les enfants apprennent cela dès 5 ans, dès qu'ils rentrent à l'école, dès qu'ils vont à la mosquée, ce niveau de haine devient normal. On ne peut pas les blâmer. Ils ont grandi avec ça. La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si les Ahmadis sont musulmans ou non. La question, c'est de savoir si nous avons le droit d'exister au Pakistan. On l'a bien vu dans l'affaire Atif Mian en septembre dernier. Atif Mian est un économiste très réputé que le gouvernement actuel voulait nommer au poste de conseiller. Mais il y a eu une telle mobilisation publique contre lui que le gouvernement lui a demandé de démissionner. La diabolisation des Ahmadis est tellement extrême que c'est inacceptable pour les Pakistanais qu'un Ahmadi occupe un rôle public. Le récit officiel, c'est que les Ahmadis sont des ennemis de l'islam et des ennemis du Pakistan, une sorte de cinquième colonne qui œuvrerait contre les intérêts du pays. Ça va au-delà de la marginalisation. Les Ahmadis sont devenus les ennemis perpétuels du pays.
Nous quittons les routes poussiéreuses de Rabwa pour retourner à Islamabad, à près de 5 heures de route d'ici. Les Ahmadis nous ont dit que c'était les responsables religieux qui prêchaient la haine contre leur communauté. Alors nous allons demander au moufti de la Mosquée Rouge ce qu'il pense des Ahmadis. La Mosquée Rouge d'Islamabad a été dans le passé une place forte de l'idéologie extrémiste. Elle a été rasée en 2007 par les autorités parce qu'elle était gérée à l'époque par des proches d'Al-Qaïda. Depuis, la Mosquée Rouge a été entièrement reconstruite. Salam alaikum. Vous êtes le moufti de la mosquée. On voudrait savoir ce que vous pensez des minorités religieuses ici au Pakistan. Qu'est-ce que vous pensez des Ahmadis ?
Au Pakistan, au Bangladesh, en Inde et en Arabie Saoudite et dans tous les pays musulmans, il y a un consensus pour dire que les Ahmadis ne sont pas musulmans. S'ils abandonnaient leurs pratiques sataniques, cela gommerait nos différences. Je vais vous donner une image. Imaginez que notre Premier ministre arrive dans votre pays et décrète qu'il est votre Premier ministre. Alors c'est évident que les gens ne l'accepteraient pas. Ce serait illégal et contraire à l'éthique.
Vous pensez qu'ils ont des pratiques sataniques ?
Oui, leurs pratiques sont sataniques et contraires à l'islam. Pour nous, ils sont bien plus dangereux que les autres minorités, comme les hindous et les chrétiens, qui n'ont pas pris le bon chemin.
Tahira Abdullah, vous êtes une défenseure acharnée des droits de l'homme ici au Pakistan depuis plus de 40 ans, à tel point que les talibans ont pris une fatwa contre vous. Votre vie ici est en danger. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour améliorer la situation des Ahmadis ?
Il faudrait revenir sur les changements constitutionnels adoptés en 1974, ce qui n'arrivera jamais parce que le gouvernement aurait besoin de la majorité des deux tiers à l'Assemblée. Je ne crois pas que la loi et la constitution seront un jour modifiées. Donc, que pouvons-nous faire ?
The rule of law.
Premièrement, la force de la loi doit être réaffirmée.
Which means
ce qui veut dire que les rassemblements des foules hystériques ne doivent pas être autorisés. Parce que ces foules tuent sur un simple soupçon de blasphème. Contre les Ahmadis, mais aussi contre les chrétiens du Punjab et les hindous de la province du Sindh, on remarque la présence de milices, des foules déchaînées qui font la loi et qui tuent. Rappelez-vous que le gouverneur du Punjab a été tué et le ministre des minorités aussi à Islamabad. On voit beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont un permis de tuer. Mais il n'y a pas de permis de tuer. Soit nous sommes un pays civilisé où c'est la loi qui gouverne, ou alors nous sommes une république bananière. Deuxièmement, il faut changer ce que l'on enseigne aux enfants et modifier les manuels scolaires. Il faut inculquer le respect et l'amour de toutes les religions.
Est-ce que vous êtes optimiste ?
Oui, je le suis, bien sûr. J'ai 65 ans et je continue à me battre pour les droits de l'homme. Le jour où je perdrai espoir sera le dernier jour de ma vie.
Les damnés du Pakistan, c'était un reportage de Géraldine Allot, prise de son Clémence Bonfils, réalisation Violaine Ballet, assistée d'Elisa Mchin, mixage Julien Chabassu. À la semaine prochaine.
Allah jalle shan, Allah jalle shan, Allah jalle shan.